Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps.
Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas.
Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
Le futur a montré certaines choses.
J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps.
Tu peux faire certaines erreurs dans le passé que tu fais plus dans le futur.
Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Eh oui, Thierry Henry, qui nous a fait un tirage au sort de la Ligue des Champions. T'es sérieux, hein, tout à l'heure, tirage au sort, il n'était pas là pour rigoler.
Très classe.
Thierry Henry, voilà, toujours très acteur. Lyon, alors avant que Max donne son avis sur Fonseca hier soir, puisque tu veux en parler, deux, trois infos du jour importantes. Déjà, Lyon et Fenerbahçe devraient normalement se retrouver avec une enquête disciplinaire. Donc, suite à ce qui s'est passé hier soir, vous savez que l'UEFA aime pas du tout les incidents, notamment dans les tribunes, mauvaises images. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait des sanctions financières. Que Guendouzi, par exemple, pour ce qui s'est passé après le match, se retrouve avec des matchs de suspension. Donc, on attend que l'UEFA communique dans les prochains jours. Par ailleurs, Edouard G, qui était au stade hier, bien sûr, nous envoie plein d'infos aujourd'hui sur ce qui s'est passé en coulisses. Il y a eu l'histoire du chambrage, Guendouzi et la bagarre avec l'entraîneur des gardiens, hein, qui est également de Lyon, qui est impliqué par ailleurs. Il y a aussi eu des débordements dans le stade et en dehors du stade pendant et après la rencontre. Il s'est passé pas mal de choses, des employés de la buvette proche du parkage visiteur agressés, donc on a dû fermer la buvette. Il y a eu une première charge dans le parkage visiteur qui a dégénéré. Il y a eu des problèmes aussi à la sortie des supporters turcs dans ce même parkage. Et il y a même eu des problèmes dans la tribune VIP avec les VIP de Fenerbahçe. Qui ont chambré. Donc il y a des Lyonnais qui les attendaient à la sortie du parkage VIP. Enfin voilà, donc c'était un peu tendu de partout. Et il y a eu 6 interpellations, mine de rien, hier soir. Alors bon, moi, je veux pas comment tout mettre sur le dos de Guendouzi, mais enfin forcément quand sur le terrain ça dégénère. Automatiquement, souvent, ça dégénère aussi dans les tribunes. Hein. C'est assez automatique.
Je ne sais pas s'il est défendable, Guendouzi, sur cette situation. Je sais qu'on en a parlé hier.
Il y a même des Lyonnais qui disent bon, bah, après tout, ça fait partie du foot, le chambrage.
Il y a un poil trop.
Mais il y a des degrés. En fait.
Moi, sa place quand t'es joueur. Toi et ta famille tout le match. Bon,
j'ai regardé le match bien sûr hier et surtout j'ai regardé l'après-match. Et ensuite j'ai écouté l'after et aujourd'hui j'ai écouté pas mal de débats un peu partout sur RMC ou même ailleurs. Et en fait il y a deux choses sur cette histoire. La première chose, c'est qu'un joueur de foot n'a pas à se faire insulter dans un stade de foot. Et ouais, peu importe.
Non.
Moi je suis désolé moi.
Il y a
un moment.
Je comprends Kevin, mais c'est un vœu pieux quoi.
D'accord. C'est pas un vœu pieux en fait. Moi si je vais au foot avec, je sais pas moi, 15 petits, des U15 de Saint-Maur ou des U18, et que les mecs ils se mettent à insulter comme ça à côté de moi, en fait, je suis un éducateur, je suis un responsable sportif, en fait je vais leur dire de la fermer, sinon je les dégage. En fait c'est simple, si je vais avec mes enfants et qu'il y a un de mes enfants qui insulte un joueur de foot, je vais lui dire de la fermer, en fait.
Tu as raison, mais tu es naïf si tu crois que ça va s'arrêter demain.
Donc, ça veut dire que la bêtise humaine, il faut toujours la tolérer.
Il faut la cautionner, on est d'accord.
Faut la tolérer.
On est d'accord que les supporters lyonnais doivent être sanctionnés.
Je te dis juste que.
Mais dans ce cas-là, à chaque match,
on ne devrait pas tolérer. Parce que là, c'est pas 10 personnes qui insultent le mec. C'est beaucoup de personnes. Je pense pas que c'est tout le stade non plus, mais c'est beaucoup de personnes. Donc ça, même s'il a joué à Marseille, à Saint-Etienne, j'en ai rien à faire. Moi, je vais pas dans un stade pour insulter quelqu'un. Ce ne sera jamais le cas.
On est d'accord.
Et je pense que tous les gens normaux ne devraient pas tolérer ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est que moi, quand je regarde les images, moi qui suis un peu provocateur et qui aime ça, moi qui étais un peu Guendouzi dans l'âme, même moi, je me dis, par contre, là, il en fait trop.
Ouais. Je veux dire, ah bah oui, là, on peut dire qu'il a légèrement exagéré quand même.
Tu peux faire une fois
notamment
le truc
sur la fin.
Tu peux faire le truc de Jules.
Mais ça commence très tôt avec le doigt d'honneur pendant l'échauffement.
Bon, ça c'est autre chose.
Ça peut être une histoire de frustration. Ok, voilà.
Mais là, à la fin, t'as gagné. D'accord? Donc t'as gagné, en plus t'as l'adrénaline d'avoir gagné, etc. Tu fais le signe de Jules, j'ai envie de te dire pourquoi pas. On te dit de te calmer une première fois, les stadiers ils viennent. Et c'est là où je suis d'accord avec ceux qui disent que quand même, le footballeur, même s'il ne doit pas se faire insulter, le footballeur a quand même un devoir de responsabilité. Voilà. Il y avait peut-être des amis à lui, de la famille dans la tribune, et surtout, il y avait des stadiers qui n'ont rien demandé, il y avait des gens qui ont dû s'interposer, il y avait des mouvements de foule, il peut y avoir... Et ça, quand t'es footballeur, tu peux te dire aussi, oui, rebrancher le cerveau et dire attends.
Sois responsable.
Et dire attends, bon, c'est bon là, t'as chambré par contre, c'est bon, stop.
Ah oui, il a pas su prendre suffisamment de recul. Exactement. En fait. Parce que sur les gestes de Jules,
c'était trop long.
Non, mais c'est ça. En fait, moi, quand je l'ai entendu après match, c'est vrai que sur les signes de Jules, les petits chambrages, etc., etc., bah, il faut accepter à un moment donné que le public qui chambre de pouvoir recevoir quelques petits chambrages de la part d'un certain joueur. Moi, ça me choque pas. Après, malheureusement, il a pas eu suffisamment de recul pour, mettre la limite, en fait. Exactement. À un moment donné.
Exactement. Là, il faisait le Jules deux, trois fois. Il allait saluer ses supporters.
C'était fini.
Après, il serrait la main des adversaires. Il mettait des photos sur Insta quand tout le monde est rentré chez lui.
Tu parles à tête reposée. Le gars, il vient jouer 90 minutes.
Je
ne cautionne pas. Ça ne devrait pas arriver au stade. Et je suis d'accord avec Kevin que les supporters qui agissent de cette manière devraient être sanctionnés. Maintenant, c'est la réalité du football. Et si tu penses que ça va s'arrêter demain uniquement à travers des sanctions,
c'est pour ça que je dis que Guendouzi doit être plus intelligent.
Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, t'as Skriniar qui vient le prendre dans ses bras en disant arrête, et alors l'entrée des vestiaires continue. Donc voilà, il doit être sanctionné, tout comme les supporters qui ont été fautifs, et en l'occurrence, en tout cas, j'espère qu'ils seront reconnus, entre guillemets, devraient être sanctionnés. Mais c'est la réalité d'un stade de football, malheureusement, et ça n'arrivera pas.
À Lyon, Lyon a été très précurseur en la matière sur l'identification des fauteurs de troubles. Et à Lyon, maintenant, dans tous les stades, il y a les caméras, mais à Lyon, ils sont très efficaces pour même aller chercher un mec dans la tribune qu'ils ont repéré avec un comportement déviant et le sortir et l'interdire, les fameuses sanctions administratives où on t'enlève ton abonnement.
Mais j'imagine que c'est pendant le match. Après le match,
on n'en est sans doute pas à faire de la lecture labiale pour voir qui a insulté.
Si c'est 5000 spectateurs, compliqué d'aller sortir à 5000.
Tiens, j'ai un auditeur lyonnais, conducteur de tram, qui nous ajoute qu'il y a un tram qui a été caillassé également. Une rame a été caillassée.
Non, mais c'est pour ça qu'après ça a été beaucoup trop loin, et malheureusement, même si, attention. Et là, je décorrèle tout ça. J'ai trouvé exceptionnel Guendouzi dans le match.
Il fait un très bon match, on l'a dit hier.
Un énorme match. Et déjà, à l'aller, il a été bon aussi. Et au retour, il a été énorme. Et tu vois,
en plus, ça gâche complètement son match, en vérité.
Mais ça gâche
sa réputation pour l'équipe de France, tiens. Au passage,
il était encore loin.
Après, si tu veux un mec qui a la grinta, tu peux quand même lui faire confiance.
Bon, en revanche, est-ce qu'il faut. Alors, parce que du coup, vous savez que sa cote a remonté à Marseille.
Oui.
Il y a eu des. Nous, on a reçu plein de messages là.
Communication exceptionnelle de la part de Guendouzi. Bravo.
Tous les Marseillais.
Il adore l'OM. En plus, c'est pas fin. C'est-à-dire que s'il peut finir sa carrière là-bas, Matteo Guendouzi va le faire avec grand, grand plaisir.
Tu en as Rui qui est venu réagir à ce qu'on dit là.
Il prend un Fenerbahçe là, à mon avis.
Rui qui est supporter de Porto. Salut Rui.
Oui, salut.
Salut.
Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Kevin. Ouais, salut. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec Kevin, hein, je suis désolé, mais les insultes, ça doit pas se faire, quoi. D'ailleurs, il me semble que les insultes racistes. C'est prohibé et c'est sanctionné.
Bien sûr, c'est illégal.
Donc autant si on peut arrêter un match pour des insultes racistes, qu'est-ce qui fait qu'on peut pas arrêter un match pour les autres insultes? Alors moi, j'excuse pas Guendouzi, hein, là-dessus, attention qu'on ne me prenne pas sur mon propos. Par contre, par rapport à ce qui s'est passé hier, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment parce que j'ai regardé les vidéos là sur Internet, ça a duré 8 minutes le folklore de Guendouzi. Comment t'as pas un dirigeant qui prend son joueur et qui lui dit bon là maintenant t'arrêtes.
Oui, maintenant stop.
Il le prend et ça, il rentre. Donc là,
t'as un dirigeant qui lui dit à un moment.
Ouais,
mais en fait, l'autre il
le prend. Bien sûr.
Skriniar, son capitaine, parce qu'il faut comprendre quand t'es joueur.
Oui, il a raison. Le dirigeant peut aller loin. Il dit, mais non, parce que moi, c'est nous qui allons te sanctionner.
Le dirigeant, à part l'entraîneur, il n'y a personne. Enfin, le joueur n'écoute quasiment personne. Donc, si le team manager arrive en disant, Guendouzi, tu arrêtes. Non, les seules personnes, les seuls joueurs.
Peut-être qu'à posteriori, Fenerbahçe peut le sanctionner financièrement pour l'image du club.
Attends, tu vas pas me dire, il y a un aéropage sur le banc. T'as 20 personnes aujourd'hui sur le banc.
Mais je t'explique, quand t'es joueur, tu respectes, et c'est triste, mais tu respectes uniquement ton entraîneur principal, c'est tout, ça fonctionne comme ça dans un club professionnel. Alors Skriniar, qui est son capitaine, arrive, peut-être qu'il aurait pu le calmer, mais on l'a compris, il était en transe, il avait autre chose à faire qu'à écouter.
Mais si tu veux, ce que je veux dire en plus quand t'es dirigeant, et là vous connaissez mieux ça que moi, mais là, tu protèges ton joueur, parce que moi, hier, à un moment donné, moi, j'ai revu les images, t'avais les supporters lyonnais qui étaient en train de vouloir entrer sur la tribune pour se le faire.
Ouais,
j'ai même vu sur les images des stadiers qui se sont fait taper par les supporters lyonnais. Donc, si tu veux, y compris pour défendre ton joueur, parce que il a pété un boulard, il a disjoncté. Alors, bon, c'est Guendouzi, mais je pense qu'hier, il a quand même disjoncté.
Bien sûr,
quand t'as un gars qui disjoncte comme ça, mais il faut le protéger, quoi, quelque part. Alors, je l'excuse pas, hein, mais voilà, moi, je voulais juste réagir.
Non, mais imaginez le drame s'il y avait un supporter lyonnais qui était vraiment rentré sur la pelouse ou deux ou dix.
Ben ouais.
Il y en a qui sont rentrés et qui ont été interpellés, hein.
Non, mais c'est pour ça que là, moi, je pense qu'il y a... Enfin, dans ces cas-là, de toute façon, tout le monde est responsable et personne n'est responsable. Mais en tout cas, voilà, moi, il y a un truc que j'ai pas entendu, c'est les dirigeants du club, certains joueurs qui pètent un boulard, qui disjonctent. À un moment donné, faut, ne serait-ce que pour lui, il faut le protéger. Parce que là, hier, moi, j'ai revu les images, mais c'était à moins une... qui se fasse tabasser sur le terrain. D'ailleurs, après, je sais même pas ce qui s'est passé dans les vestiaires. Et moi, franchement, je suis d'accord avec Kevin, les insultes, c'est insupportable. Moi, je me souviens, alors je vais raconter une anecdote, j'étais avec mon fils voir un Porto Braga en demi-finale de coupe, et j'avais des gens à côté de moi qui, tout le match, ont insulté le juge de touche. Alors, c'était la famille, sa mère, sa arrière-grand-mère, tout le monde y est passé.
Ça, c'est la réalité des stades, malheureusement. On était à la Coupe du Monde, j'ai été voir France Suède, c'était la même chose. Et pourtant, on est sur une Coupe du Monde, dans un événement qui est censé être familial.
Les Suédois, ils ont beaucoup insulté les Français, comme ça.
En tout cas, moi, j'étais dans la partie française, je peux te dire que ça a insulté. Après, c'est alors, attention, je cautionne pas, mais ça serait utopique de penser que tu peux faire cesser ça.
Non, mais c'est choquant.
C'est trop ancré dans la culture footballistique.
Ce que tu as vécu, moi, je l'ai vécu aussi, par exemple, un jour au Stade Vélodrome. Et j'étais dans une tribune, je travaillais pas. Et il y avait un père de famille avec son fils qui était, je vais avoir 6-7 ans. Et le fils insultait les joueurs parisiens. Et donc, vraiment, le père est à côté, le père ne dit rien. Donc, au bout d'un moment, je suis accueilli là, je dis, mais ça vous dérange pas quand même là? Et le père, il me regarde, genre, mais c'est quoi ton problème? Tu vois?
C'est normal.
Voilà. Donc effectivement, c'est très choquant parce que tu dis, on est dans quel monde on est en fait.
Mais je pense que
tout est permis dans un stade.
Mais
une nouvelle fois, malheureusement.
Mais encore une fois, tu sais, quand t'es dans un club, là c'est dans le milieu professionnel. Mais moi, je ne comprends jamais quand tu te déplaces sur un match U15, U16, U18 senior et que t'as des mecs qui insultent une fois. Bon allez, mais qui insultent tout le match et que t'as des dirigeants qui sont à côté qui disent rien. Je suis désolé, c'est impossible pour gagner un match de U15. Tu peux pas laisser tes licenciés ou des amis de tes licenciés insulter dans tes locaux, dans ton stade. Il y a un moment, tu vas les voir et tu leur dis, les gars, vous voulez insulter, c'est derrière la barrière, vous sortez du stade.
Paradoxalement.
C'est comme ça, ça fait partie de l'éducation.
Paradoxalement, dans ton match U17 ou U15 à Saint-Maur, où il y a peut-être 15 personnes autour de la main courante, où t'entends encore plus.
Ouais.
Enfin, tu vois,
oui, mais c'est pire.
C'est quelque part, voilà, j'allais te dire, c'est presque pire que dans un stade de 40 000 où en fait finalement t'as une espèce de masse.
Comment tu changes ça?
Bah, tu changes ça en sortant les gens en fait.
C'est plus facile dans ton match de U15 que dans un grand stade.
Mais d'accord, mais je ne dis pas que tu vas réussir. Je te dis que le discours des gens qui sont comme nous dans un média, c'est quand même de le dire.
Ah,
on peut dire
que
t'es utopique, t'es pas utopique, ça va se faire, ça va pas se faire. En tout cas, ça reste inadmissible.
Maintenant, penser que ça va changer très rapidement,
non, mais écoute,
malheureusement.
Pierre à pied.
Voilà pour cette histoire. Avi, maintenant, on va revenir au match avec Maxime qui veut parler de Fonseca dans quelques instants. Ensuite, il y aura la Ligue 1 au programme et le tirage au sort de la Ligue des Champions. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
23h17, Fabrice Hawkins, toujours là au téléphone, bien sûr, avec 50 agents en même temps. Quelle vie! Ça commence à quelle heure le matin? Ton premier message, ton premier coup de fil?
Franchement, ça dépend, mais généralement, quand je me lève un peu tard, c'est-à-dire à 9h, t'as pris la grasse mat. Hein, sur les derniers jours de mercato, si tu te lèves à 9h, t'as fait une grasse mat, parce que généralement, les premiers textos, en fonction des décalages horaires, c'est 6-7 heures. Donc, généralement, j'essaie de me lever vers 6h, de regarder si ça ne passe rien. Je refais une petite sieste de 45 minutes. Et après, je démarre vraiment à 7h.
Incroyable.
Vraiment une sieste, en fait. C'est la fin de ta nuit.
Oui, c'est ça.
Sieste, c'est l'après-midi, non?
C'est un peu ça. Mais grâce à ça, j'ai eu 2-3 deals, quand même. Surtout dans les derniers jours, comme ça, avant les autres.
Bien joué. Et là, tu ne te dis jamais, allez, déconnexion, je coupe mon téléphone pendant 3 heures.
Pendant le mercato?
Ouais.
Non, impossible. Sur les derniers jours, comme ça, impossible. 3 heures, non, impossible. Il est allumé le soir.
Allez, Fonseca, c'est parti. Jingle Channel.
Bon, c'est quand même pas des bêtes de foudre. Hein, c'est...
Merci Max.
C'est moi ça ?
Pas apparemment.
Ah non, c'est pas ma voix.
Si, je te confirme, ouais. C'est bien toi.
Ouais.
Donc toi, tu voulais revenir sur Fonseca qui, donc, hier, était contrarié après le match. Il a même dit, ah oui, bah oui, je suis peut-être un entraîneur de merde, qui répond à une question d'un journaliste en conférence de presse. Et toi, tu veux le défendre, c'est ça ?
Bon, est-ce qu'il peut être défendable lorsque tu perds un match aussi important pour l'avenir économique de ton club? Bon, quoi qu'il en soit, ouais, j'ai lu pas mal de revues de presse ce matin, j'ai un peu lu les avis de beaucoup de gens et je trouve quand même un petit peu maladroit de plomber et de pointer du doigt uniquement l'entraîneur. Alors certes, il a un passif qui joue pas en sa faveur et notamment si on regarde sur le très court terme, le match aller contre le Sparta, où est-ce qu'il avait complètement craqué, il nous avait sorti une composition d'équipe qui n'avait absolument pas fonctionné. Alors heureusement, il était revenu à la raison pour gagner ce match retour. Il y a aussi un peu plus loin, la saison dernière, contre le Celta Vigo, où est-ce qu'il avait un petit peu déconné, Manchester United, pour ne citer que ces matchs-là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu penses à Fonseca, bah, tu te dis qu'il a peut-être un plafond de verre sur les grands matchs. Et c'est vrai qu'hier, malheureusement, cette défaite contre le Fenerbahçe peut te remettre un petit peu cet avis à la lumière. Maintenant, j'ai envie de le défendre parce que, alors certes, je l'ai dit, il a des défauts et on l'a vu aussi sur ses précédents clubs, notamment par exemple du côté du Milan AC, mais je trouve que c'est un coach qui, comme malgré tout, hier a presque fait ce que tout le monde aurait fait. Il avait fait le choix de faire tourner son effectif contre Toulouse, choix qui est finalement été payant puisqu'ils ont gagné ce match 2-0. Luis Enrique le fait en règle générale aussi sur les semaines de Champions League. Donc jusqu'à là, je trouve qu'il avait fait le bon choix et quand tu regardes le 11 titulaire qu'il avait mis en place, est-ce qu'on aurait fait quelque chose de différent? La réalité, c'est que je pense et je suis sincère dans mes propos, certains joueurs ont complètement déjoué Maitland-Niles, Abner, Kluivert, et donc je n'ai pas envie de blâmer uniquement les joueurs, je pense que c'est du 50-50, mais j'ai aussi envie de faire comprendre à tout le monde que si l'Olympique Lyonnais ne s'est pas qualifié hier, c'est aussi parce que les joueurs n'étaient pas au niveau, certains ont complètement ont été affaiblis par l'enjeu du match.
Kluivert a fait un match pourri.
Et donc voilà, alors on pourrait se poser la question sur la tactique qui avait été de choisir de centrer et d'utiliser les côtés pour centrer sur Openda face à deux défenseurs centraux, Skriniar et Ake, qui sont exceptionnels dans les airs. C'est vrai que tu peux te poser la question pourquoi Fonseca a fait ça, mais en règle générale,
ils ont marqué sur centre. Ouais, même s'il était un demi cheveu hors jeu.
Tu peux aussi te poser la question sur le fait qu'il a attendu très tard pour faire ses changements, notamment Abner et Maitland-Niles, ou pourquoi il a pas sorti Tolisso alors que Morton lui est sorti, était peut-être le meilleur Lyonnais hier soir. Donc voilà, j'ai bien évidemment envie de mettre Fonseca face à ses responsabilités, mais j'ai trouvé quand même le jugement de tous ces gens, de l'opinion publique, de la planète football un petit peu dur envers un entraîneur qui malgré tout a fait ses preuves. Je parle à Lyon, notamment l'année dernière en Ligue 1, où est-ce que je trouve qu'il a fait quand même quelque chose de remarquable. On va pas parler que de ses 13 victoires d'affilée. Il faut pas oublier où est-ce qu'il a récupéré le club dans un état catastrophique. Il aurait pu partir, il est resté. Je trouve que le mariage entre Fonseca et l'Olympique Lyonnais fonctionne bien. Et donc, il faudrait pas tout remettre en cause parce qu'en effet, encore une fois, et je dis bien encore une fois, Fonseca n'a pas été à la hauteur, entre guillemets, n'a pas pu qualifier son club en Champions League. Mais j'ai bon espoir que Lyon fasse une bonne saison, à condition évidemment qu'ils arrivent à garder maintenant aussi leurs meilleurs joueurs, et en particulier Malik Fofana.
Bon, Fabrice, Kevin, les joueurs sont les premiers responsables ?
Non, pour moi c'est... moi j'ai toujours du mal à penser que c'est uniquement les joueurs. Pour moi c'est aussi l'entraîneur, le staff, et puis il y a l'adversaire aussi, hein, l'adversaire qui a fait peut-être un meilleur match retour qu'il ne l'avait fait à l'aller, et donc
ça, c'est sûr.
Cette corrélation de facteurs a fait que Lyon a raté notamment sa première mi-temps, mais ils ont quand même réussi leur seconde mi-temps, les Lyonnais. Franchement, s'ils égalisent sur une de leurs grosses occasions, honnêtement, ils vont en prolongation et c'est plutôt logique sur la deuxième mi-temps.
Et puis sur le papier, il y a quelque chose que tu dis qui est vrai aussi. Ils n'ont pas à rougir, le Fenerbahçe. C'est-à-dire que je pense que sur le 11, ils ont un meilleur 11 si tu prends poste par poste.
Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi.
Bah, ouais,
il y a 5-6 ans, ils ont peut-être un meilleur 11, mais actuellement dans le
Fenerbahçe. Fenerbahçe.
Ouais, oui. Mais avant
tu préfères le milieu de Fenerbahçe ou celui de Lyon?
Sur le match retour, je te dirais celui de Fenerbahçe. Sur le match aller,
avant la double confrontation, moi, je disais en tout cas que Fenerbahçe était favori.
Ah, moi, je pense qu'ils étaient favoris aussi. Après, je suis pas du tout étonné de les voir gagner, même si Lyon a montré qu'ils pouvaient faire le match.
Après le match aller,
c'est pas favori.
Après, mais si,
si tu regardes Fenerbahçe,
avant le match, ils étaient favoris.
Oui, Fenerbahçe, poste par poste.
Ils ont Ederson dans les buts.
Poste par poste, mais il y a 5 ans, Ederson c'était le meilleur. Skriniar a été joué au Paris Saint-Germain. Lukaku était
toujours un bon gardien quand même.
Non, mais c'est quand même
ils ont Greenwood.
Je te dis pas que c'est Manchester City. Je te dis qu'avant le match, moi personnellement, je vais parler pour moi.
Une fois qu'on a vu le match, moi et je pense pas le cas.
Et moi, je pense que ils étaient quand même favoris sur la double confrontation. Après le match aller, j'ai trouvé que Lyon avait fait très bonne figure et que Lyon, on le savait, avait de quoi embêter cette équipe. C'était pas favori 80-20. J'avais dit, je crois, 55-45, un truc comme ça. Mais après le match aller, je me suis dit, ça s'est presque inversé. Parce que tu reçois, t'as fait un bon match aller. Mais force est de constater que les individualités et cette équipe, quand même d'expérience, qui avait quand même déjà passé quelques tours dans cette compétition, a montré qu'ils avaient assumé leur rang. Et s'ils se qualifient au final, c'est pas une infamie pour Lyon de perdre 2-1 au match retour. Le seul problème, c'est qu'ils avaient été très bons à l'aller et donc ils avaient fait naître des espoirs.
Exactement. C'est la raison pour laquelle, en effet, on peut avoir des regrets. En tout cas, les Lyonnais peuvent avoir des regrets par rapport au match aller. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que certains Lyonnais, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans mon avis, ne pas blâmer uniquement l'entraîneur, parce que certains joueurs n'ont pas été à la hauteur.
Mais ils n'ont pas le niveau, simplement.
Trois joueurs sur quatre de ta défense qui font des mauvais matchs,
ça devient très compliqué
pour pouvoir se qualifier.
Mais on est d'accord quand même que Maitland-Niles, c'est pas un joueur niveau Ligue des Champions quand même, à la base.
À la base, non. Maintenant, il nous l'a montré quand même.
Oui, mais c'est pareil.
Alors, Maitland-Niles, il a un problème, c'est que soit c'est très bon, soit c'est très mauvais.
C'est pas Ligue des Champions parce que t'as pas de standard, quoi. T'as pas de niveau. Tu vas faire un 6 sur 10, 7 sur 10. C'est ça, la Ligue
des
Champions.
Niveau Ligue des Champions.
Non, mais aujourd'hui, Maitland-Niles, s'il quitte Lyon, tu crois vraiment qu'il va quitter Lyon pour un club Ligue des Champions?
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Donc, c'est pas niveau
collectif. On parle pas de
forcément. Je suis d'accord, mais si tu parlais des individualités à mettre, contre ceux qui ont beaucoup critiqué l'entraîneur.
Avec un Tolisso, un Tesman, un Morton, un Openda.
Non, mais même Kluivert. Kluivert, c'est un bon joueur. Mais
s'il s'en va,
il n'ira pas en Ligue des Champions ou dans un petit club de Ligue des Champions. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes.
Je vais m'amuser, là, je vous écoute.
Pour la Ligue 1, c'est bien. Pour la Ligue des Champions, c'est juste. Non, le niveau Europa League, c'est leur level.
Si tu prends les 11 de départ de hier, quel joueur lyonnais tu mettrais titulaire à Fenerbahçe?
C'est une très bonne question.
Pas beaucoup.
Ah bon?
Fofana peut-être.
Moi, Openda à la place de Moriki. Fofana,
je vais mettre Tolisso. Tu peux mettre Tolisso.
Ah ouais.
Tolisso.
Ah ouais.
Fofana.
Morton, il a été énorme.
Ah bah, vu Guendouzi et Kanté hier.
Évidemment, si tu joues avec un double milieu. Mais alors, tu regardes sur le match aller, ils ont fait un très bon match, et spécialement N'Golo Kanté. Mais sur le match aller, il n'y avait pas photo. Donc. Alors si tu parles du match,
Lyon aurait bien gagné.
Il y avait pas photo, c'est beaucoup. Il y avait pas photo. Mais ils mettent un poteau à la dernière minute.
On parle du trio de milieu défensif lyonnais.
Mais Lyon dans l'absolu aurait pu gagner. On n'est pas en train de dire qu'ils sont nuls, mais simplement que Fenerbahçe aujourd'hui, ils ont des joueurs. Et tu parlais tout à l'heure de l'âge, ça compte quand même. L'expérience, c'est pas des joueurs qui ont 36 ans. Ils ont quand même dans la force de l'âge. Ils ont entre 30, 31, 32 ans. Ils ont fait un match sur le retour. Ils ont fait un match d'expérience.
Ouais. Maxime est là, les gars.
D'équipe pour la Ligue des Champions.
Maxime, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, bon, Maxime. Excuse-moi, je te coupe. Gilbert, on a eu un Fabrice, un Kevin et un Maxime comme auditeur. Je sais pas si c'est fait exprès, mais.
Bravo,
je suis attentif. Il y a assez peu de chances que tu aies un Gilbert. Je le dis, c'est. Maxime, tu es encore dégoûté?
Ouais. Hier, j'étais énervé. Là, aujourd'hui, j'y ai pensé longtemps dans la journée. J'arrive pas à accepter cette défaite.
Donc pour toi, si on t'avait dit, avant, je te pose une question, hein, vraiment, c'est, y a pas de piège. Si avant la double confrontation, on t'avait dit que Lyon se fait éliminer contre Fenerbahçe avec un but d'écart sur l'aller-retour, t'aurais dit que t'y croyais pas ou que tu serais très très déçu si ça arrive.
Non, parce que en soi, ils ont quand même une grosse équipe. Mais quand tu vois le match aller, au final, ils ont des bons joueurs, mais collectivement. On était au-dessus au match aller.
Oui, t'as raison, c'est le scénario des deux rencontres en fait qui rend fou.
Parce que là, en fait, ce qui m'énerve, enfin, comme je disais avec au standard, c'est que j'avais déjà appelé pour Fonseca la saison dernière, et moi je commence à en avoir marre parce que ok, il a fait du bon boulot la saison dernière quand on a fait notre série d'invisibilité, mais comme vous avez dit, enfin que ce soit Daniel ou même plusieurs personnes dans l'after, dès qu'il y a des gros matchs en jeu, ben il n'y arrive pas quoi.
Qu'est-ce qu'il aurait fait de différent là, par exemple Fonseca sur ce match retour?
Après moi, tu vois, moi je suis quelqu'un, je suis pas un pro du tout, je suis pas payé, je suis pas entraîneur, je joue en D5, enfin voilà. Mais hier, depuis le début de la saison, entre guillemets, elle n'a pas commencé depuis longtemps, mais match de préparation, tu vois que Boudache, c'est pas si mal. Tu vois, ce week-end, il change les 11 joueurs. Tu vois que Barreur, ça peut être un défenseur solide. Que Atekame, en un match contre Toulouse, pour moi, il a clairement montré qu'il était au-dessus d'Ethan Nice. Pourquoi hier, il met pas Atekame et il essaye pas Boudache à la place de Noir Match.
Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'après le match, tu peux te dire, en effet, il y a eu des choix qui ont été surprenants de la part de Fonseca. Maintenant, mets-toi à sa place. Il avait fait le choix, en tout cas, de faire tourner ses 11 titulaires contre Toulouse. Il peut pas, quand bien même, il y a des joueurs qui ont brillé, notamment Atekame, qui a été très bon hier, d'ailleurs, quand il est rentré, bien meilleur que Maitland Niles. Il ne peut pas le remettre 3 jours plus tard, un joueur qui vient d'arriver, qui n'a pas forcément la condition physique pour pouvoir enchaîner 2 matchs d'affilée. Enfin, il y a une suite logique. Là où je te rejoins, c'est vrai que Fonseca aurait pu faire des changements à la mi-temps, d'accord. Mais à partir du moment que tu es mené, que tu as besoin d'aller chercher cette égalisation, tu fais pas forcément des changements en défense. Donc attention, hein, je suis pas en train de défendre Fonseca. Là où je suis d'accord avec toi depuis le début, c'est que sur les gros matchs, à ce fameux plafond de verre, et son passif aujourd'hui me fait dire qu'en effet que le match d'hier ne va pas jouer encore une fois dans sa faveur, et notamment dans sa réputation. Mais si tu te mets vraiment à sa place 2 minutes, il avait presque fait les choix parfaits. Malheureusement, c'est aussi les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur.
Malheureusement, pour moi, mettre Ashley Metanage titulaire, c'est pas un choix parfait, parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous montre que dans le... Oui, non, mais même sans le recul, avant le match de hier, plusieurs fois dans la journée, j'ai croisé des gars où on discutait et tout. Et quand j'ai vu la compo le matin en me levant, j'ai dit, je sentais pas. J'ai dit, et les gens qui disent, vous allez passer tranquille, à l'aller, vous avez été bon. J'ai dit, fais attention, parce que, comme contre le Celta Vigo l'année dernière, bon, bref, on avait pris un carton quand même à la 10e minute. Mais même sans ça, je trouve que cette compo, elle est trop, comment dire, j'ai l'impression des fois que,
qu'est-ce qui aurait changé dans la compo?
C'est ça, ben, qu'est-ce que tu aurais changé?
Je dis, Boudache
à la place de Noama.
À droite. Oui.
Oh non, t'es dur.
Tu vois, et puis Boudache était très bon en sortie de banc.
Mais non, mais Boudache, il a fait une bonne préparation. Noama n'a pas joué.
Non, mais Noama, il a été bon à Fenerbahçe.
À l'aller, oui, mais là, hier soir, il a été mauvais. Et contre Toulouse, ce week-end, Boudache, je l'ai trouvé très intéressant. Et hier, quand il est rentré, on a vu la différence entre Boudache et Noama.
Oui, mais parce qu'il est rentré sur les 20 dernières minutes, ou est-ce que le bloc turc était écarté, ou est-ce qu'il a pu trouver, en effet, des espaces entre les lignes. S'il avait commencé le match, ça aurait été un match différent. Surtout face à un défenseur turc qui allait à 2000 à l'heure, qui physiquement était très, très costaud. Il faut pas oublier qu'aussi, il y avait cet apport défensif sur Brand, là, Archie Brand, à la base. Quand Noama joue, c'est justement pour aider Maitland Niles à défendre. Bon, finalement, ça n'a pas fonctionné parce que le premier but vient justement d'un 2-contre 1 qui a été mal négocié par Noama. Mais enfin, j'entends ce que tu veux dire. Avec des si et avec le recul et en regardant le scénario du match, tu peux te dire que oui, Fonseca s'est trompé sur ses choix d'hommes. Maintenant, la réalité, c'est qu'il avait décidé de faire tourner et la logique des choses voulait que ce 11 titulaire devait être celui-ci. Là où, par contre, moi, je modère mon analyse, c'est vrai qu'il aurait pu faire des choix peut-être dans le match. Et c'est là que moi, j'ai un reproche à faire à Fonseca. C'est qu'il a quand même du mal à arriver à inverser les scénarios, à trouver toujours les clés de match lorsque ça ne va pas pour l'Olympique Lyonnais. Tu as parlé du Celta Vigo, on peut mettre Manchester United, ça a été la même chose sur le match aller contre le Sparta. Donc oui, par rapport à ça, maintenant la réalité, et je terminerai avec ça, les joueurs, c'est aussi les protagonistes, c'est eux qui sont sur le terrain. Maitland Niles, la manière dont il défend sur le premier but, Abner, la manière dont il défend, pareil. Il arrive un moment, enfin, il faut aussi se regarder dans les yeux. Allez, c'est peut-être finalement un club qui mérite d'être en Europa League. Et pas
d'ailleurs,
en Champions.
Demain midi, tirage au sort de l'Europa League. Donc on aura l'ordre des matchs.
Et puis même nous, hein, dans nos analyses, va peut-être falloir qu'on continue ce qu'on faisait depuis très très longtemps, d'ailleurs dans l'after. C'est-à-dire de ne pas penser qu'un club français, même après un bon match aller, sera favori au retour face à un top club turc ou face à un top club européen.
7 sur 10 qui ne sont pas passés. Hein. Cette club sur 10, ouais,
historiquement, malheureusement, ça se passe jamais bien pour les Français.
En effet, ça se passe souvent. Hein.
Je crois que les deux derniers, c'était avec Genesio, non? C'était pas Genesio avec Lille et Genesio avec Lyon, non? C'était pas un truc comme ça?
Bon, dans un instant, tirage au sort de Ligue des Champions, les drôles de la Marie, on va analyser tout ça, plus le mercato international également d'ici minuit, et puis l'actualité de la Ligue 1. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h34, Maxime Chano est là, Fabrice Hawkins est là, Kevin Diaz est là également. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, évidemment, marronnier de l'afterfoot, fin août, on analyse tout ça avec le drôle de dame.
T'as fait tes chapeaux ou pas?
Qui nous rejoint.
Trop les chapeaux.
Bah non, mais avec les nouvelles formules.
Rien maintenant.
Franchement, moi, il me gâche le tirage au sort avec les formules.
C'est vrai que
avec leurs boutons là, où t'allais, je sais pas.
Ouais, je suis d'accord.
C'est nul, c'est insupportable.
Bon, en plus, les clubs anglais, ils sont grave favorisés à chaque fois.
Ah bon ?
Bah, puisqu'ils peuvent pas se jouer entre eux.
Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, attends, on va accueillir notre drôle de dame. Polo Breitner est là, salut Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Polo. Salut, Daniel et Manoussia est là, Daniel et bonsoir.
Ciao, ciao Gilbert, ciao tout le monde.
Julien Laurence arrive dans quelques minutes. Et Edgar Grolot.
Il est dans le train.
Edgar Grolot est là également. Salut Edgar.
Salut Gilbert, salut tout le monde. Et je suis d'accord avec Kevin sur les clubs anglais.
D'ailleurs, je précise que Barcelone a battu finalement Bilbao 2-0 tout à l'heure.
Ouais.
Bilbao, ils sont pas bien.
Ah, c'est très moyen pour l'instant.
Il a joué, Jules Koundé ?
Avec Terzic. Oui, il est rentré. Mais avec Terzic, effectivement, l'Athletic, c'est très très moyen. Ils ont perdu à domicile lourdement face à Séville. C'était très très poussif. Mmh. Et encore aujourd'hui.
Alors, de mon point de vue, les trois clubs français ont des tirages compliqués. Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Hein, on va en parler tous ensemble. Donc, le PSG recevra Barcelone, la Roma, Galatasaray et Bratislava. Et ira à Manchester City, à Aston Villa, à Villarreal et à Côme. Lens recevra City, le Sporting, Bodo Glimt et Côme, et ira à Liverpool, à Bruges, au Slavia et à Leipzig. Lille recevra le Bayern, le Betis, Galatasaray et Bratislava, et ira à Arsenal, à Rome, à Bodo Glimt et à Stuttgart. Commentaire général, les gars, vous êtes d'accord? C'est plutôt, j'ai pas l'impression qu'il y ait une balade de santé.
Bah, Luis Enrique avait dit tout à l'heure en conférence de presse qu'il allait tranquillement faire du vélo, qu'il allait regarder après, que de toute façon le tirage pouvait pas être pire que celui de la saison passée, même celui de la saison d'avant, et je trouve qu'il a plutôt raison. C'est-à-dire que c'est un tirage avec quand même 2-3 déplacements, 2-3 équipes qu'il va falloir quand même bien manœuvrer, notamment City et Barcelone, mais globalement, je trouve que c'est largement à leur portée, notamment par rapport à ce qu'ils ont fait la saison passée. Par contre, pour les deux autres clubs, effectivement, c'est, je trouve, beaucoup plus compliqué.
Moi, je te dis, de toute façon, cette formule, que ce soit pour les clubs français ou pour les autres clubs allemands, en gros, tous ceux qui ne sont pas anglais, voire même espagnols, à partir du moment où t'es en autre que anglais surtout, en fait, tu vas te taper que des gros, puisque déjà, les anglais, il y en a beaucoup et ils peuvent pas jouer l'un contre l'autre. Donc, déjà, tu sais que t'as beaucoup trop de clubs anglais dans les tirages des clubs comme les nôtres.
Après, c'est la Champions, hein. Tu sais que tu vas jouer que contre des clubs.
Non, mais c'est pas la première ligue, quoi.
Non, mais tu sais que tu vas
jouer. Mais l'Angleterre, du coup, ils ont des adversaires moins forts.
Moi, je rejoins Fabrice dans son analyse. Moi, je trouve que le Paris Saint-Germain, si tu compares avec les deux derniers, en tout cas, où est-ce qu'ils ont gagné le back-to-back, c'est peut-être le
tirage au sort. Je rappelle qu'ils ont quand même fait les barrages, hein.
Ouais, mais je trouve que c'est le tirage
au sort.
Je trouve que c'est le tirage au sort le plus accessible. Je suis un peu déçu parce que Barcelone et Manchester City, ça fait un peu réchauffé. Mais derrière, la Roma, ça fait 6 ans, ou ça fait combien de temps? Depuis 2018, me semble-t-il, hein, qu'ils ont
pas joué. Ils ont pas joué 2019.
2019. Ouais. Aston Villa, c'est pas un grand Aston Villa. Alors, Como, on connaît pas trop Como. Enfin, on connaît Como.
Como, c'est pas mal quand même.
Ouais, mais c'est la première fois qu'ils vont jouer la Champions. Excuse-moi, alors ça va être intéressant parce qu'en tant qu'avec Fabregas, entraîneur, tu vas sûrement voir
une belle équipe.
Qui joue, on est d'accord avec moi que c'est une équipe qui découvre en
mais c'est pas une petite équipe.
La Champions,
c'est pas Viking,
ça serait intéressant de voir ce que ça donne avec un Yatouré, n'oublions pas qu'ils ont dû passer par les qualifs pour pouvoir se qualifier. Et puis derrière, ouais, Villarreal, on connaît un peu le style, voilà, ça va être beaucoup de contre-pressing, beaucoup d'intensité. Galatasaray, bon, non, moi je suis pas trop impressionné par ce.
Moi je trouve que c'est un beau tirage.
Mais évidemment, parce que c'est la Champions League et t'es obligé.
Ouais, mais t'as quasiment pas de petits à part Bratislava. T'as aucune.
T'as le club Azeri, t'as Viking Star Rangers.
Non, je te parle pour le PSG.
On n'est pas sur un mastodonte quand même.
Non, mais Como, enfin, je sais pas,
tu
les
tires dans le chapeau 4, c'est pas nul non plus.
C'est pas un petit club.
C'est la Champions League, évidemment.
Là où je rejoins Max, c'est quand même abordable. Et notamment,
bien sûr, toutes les équipes sont abordables pour le PSG.
Par contre, là où c'est beaucoup plus dur, pour moi, c'est pour Lille. C'est pour
Lille, ils ont un gros retirage.
Daniele, tu vas avoir deux fois la Roma contre des clubs français. Donc, Paris et Lille, tu vas avoir deux fois Côme également contre des clubs français. Donc parlons un peu de ces deux clubs et de où ils en sont, quoi.
Ben, la Roma, ça dépend en fait. C'est la deuxième année des Gasperini. On a vu le premier match du championnat. Elle était très très en forme, mais vraiment dans une forme dans laquelle on ne l'a pas vu depuis longtemps. Dybala, il n'a jamais joué si bien avec la Roma. Il n'a jamais été en forme comme il a été ce week-end. Donc si la Roma reste comme ça, avec Malen qui l'a mis en triplé, Dybala il a fait un triplé d'assist, là il y a peut-être d'autres joueurs qui vont arriver dans le mercato, notamment en Italie on parle de Malik Fofana après l'élimination des Lyon au barrage. Donc peut-être que la Roma elle est renforcée par rapport à l'année dernière. C'est vrai que ça fait longtemps qu'elle n'est pas en Champions League, mais entre-temps, elle a fait elle a gagné en Conference League, elle a fait la finale de l'Europa League, et elle a fait la demi-finale de l'Europa League il y a deux ans. C'est pour ça qu'elle était à chapeau 2, même avant Naples, qui est arrivé deuxième au classement l'année dernière. Comme, par contre, oui, c'est vrai que si on, a priori, si on regarde même les adversaires de Comme, on se dit, bon, c'est mal parti pour eux. S'ils gagnent deux matchs, c'est déjà quelque chose. Mais en même temps, c'est une équipe que, là aussi, elle a beaucoup poussé. Il y a deux ans, elle était en deuxième division. Mais l'année dernière, ils ont fait un super mercato. Et là, ils se sont renforcés encore une fois. Aujourd'hui, ils ont pris Ricci par Milan. Bon, Ricci, il jouait pas. Et Moise Kean, par contre, c'était l'attaquant de la Fiorentina, l'attaquant de l'équipe nationale italienne. Lui aussi, il n'était pas en forme l'année dernière, mais il a un potentiel énorme avec Fabregas. Donc attention à Como, parce que le sortir du quatrième chapeau, moi j'ai dit c'est pas Viking ou pas Sabah. Par contre, oui, a priori, comme le président de Como, Soarsou, il a dit, c'est surréel qu'on joue la Champions League. Nous, on est déjà contents, on doit profiter du moment. Comment ils vont plutôt se balader, mais l'ambition elle est là, hein. Parce qu'il y a déjà, il y a deux ans, ils faisaient des matchs amicaux avec Barcelone. Cet été, ils ont joué contre Arsenal, contre Liverpool, ils ont fait match nul même contre Arsenal, justement pour tester leur niveau. Donc l'ambition elle est là. Comment c'est une équipe ambitieuse. La Roma, c'est une équipe que, c'est vrai qu'elle n'était pas en Champions League, mais je répète encore, elle a l'expérience européenne sur les matchs secs. Et surtout Gasperini aussi, il est censé être un expert de ce type de matchs-là. Donc, on va voir. Si par contre la Roma, elle a, si vous regardez la liste d'équipes que la Roma elle a sorties, c'est que des équipes avec lesquelles elle a perdu dans son histoire. Elle a perdu 7-1 contre Manchester. Et il y a son ex-entraîneur Luis Enrique au PSG. Il y a son ex-entraîneur Mourinho à Madrid. La Roma, elle a perdu contre Bratislava en 2011. Elle a perdu contre Fenerbahce il y a quelques années. Elle a perdu contre Lille l'année dernière. Donc, c'est vraiment un peu des cauchemars qui sont sortis du lit de la Roma.
Ouais. Ils ont une très bonne équipe, hein, la Roma, avec Donnarumma, Dybala, Rodrigo Mora, même l'international français qui n'est pas parti, pour l'instant qui est là, en tout cas pour l'instant il n'est pas parti, hein. Il est annoncé sur le départ, ils sont vendeurs, mais pour le moment il est toujours là, donc c'est vraiment une très très belle équipe de la Roma. Et puis Como, puisqu'on parlait de Mercato tout à l'heure, il faudra surveiller aussi l'avenir de Maxence Lacroix d'ici mardi, parce qu'il y a pas mal de clubs sur lui, et je crois savoir qu'il n'est pas, contre un départ.
Alors Edgar, tu auras toi aussi pas mal de confrontations avec les clubs français, pour Barcelone et Villarreal face au PSG, le Betis, oui, face à, qui ira à Lille également. Donc cette année, rien avec le Real.
Le Real, ils ont eu un tirage très favorable. Hein,
on n'aura pas le MJDM en France, dommage.
Le Real, Gilbert, s'il ne termine pas top 8, c'est un échec pour eux sur la phase de Ligue. Alors ça ne voudra pas dire que c'est terminé, le PSG nous l'a montré, mais là, ils doivent absolument terminer top 8. Ils n'ont pas réussi les deux dernières saisons. Quand tu vois qu'ils affrontent, même statistiquement, ils font partie vraiment des équipes qui ont le tirage le plus favorable. Et effectivement, ouais, il n'y aura pas ton joueur préféré sur les pelouses françaises. Je suis désolé de te l'apprendre.
C'est pas mon joueur préféré, c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas pareil.
On parle de Guy.
Barcelone, on connaît bien. Donc le PSG, ouais. Barça, ça va être un. D'ailleurs, on n'a pas encore le calendrier précis. Hein. On l'aura demain, sans doute. Mais il faut que tu nous en dises plus sur Villarreal et le Betis cette année.
Oui. Alors sur Villarreal, ça va être très intéressant. Alors évidemment, le PSG sera favori, mais je pense que c'est un déplacement qui sera pas simple. Déjà parce qu'ils ont un super effectif, il y a plein de joueurs qu'on connaît bien en France, Miko Tadze, Pape Gueye, Nicolas Pepe, mais surtout parce que ils ont donc changé de coach cet été. Faut rappeler que leur campagne de l'année dernière a été cataclysmique en Ligue des Champions. Ils avaient terminé avant-dernier, mais ils ont changé de coach. Ils ont récupéré le coach Inigo Pérez, qui était le coach du Rayo Vallecano, celui qui a éliminé Strasbourg, qui est allé jusqu'en finale de la Conference League. Et c'est un coach qui, je pense, va leur amener pas mal de pragmatisme, beaucoup d'envie, beaucoup d'intelligence aussi. C'est un coach moderne, intelligent, qui est capable de très très bien s'adapter à ses adversaires. Donc je pense que ça va être une équipe dure à jouer dans cette Ligue des Champions. Le problème pour eux, c'est qu'ils ont un tirage au sort qui pour le coup est extrêmement extrêmement compliqué, parce qu'ils jouent le PSG, Liverpool, United, le Borussia Dortmund, Naples, Fenerbahce à l'extérieur, donc il va falloir vraiment être performant, mais je pense pas que ça va être une équipe simple à jouer, même pour ces cadors là.
Côté allemand, bah tu, Polo, tu t'épargnes un Bayern PSG cette année. Bon, après, ça peut être plus tard. Effectivement, mais t'auras un Lille-Bayern. Et puis, t'as aussi Stuttgart contre Lille et Leipzig contre Lens. Bon, voilà, ta fameuse liste des courses, comme tu dis tous les ans.
Bah, la situation est très compliquée pour Leipzig. C'est un tirage au sort qui n'est pas bon du tout. Le plus compliqué, d'ailleurs. D'ailleurs, je rappelle qu'ils reviennent en Ligue des Champions après leur échec d'il y a deux ans et que l'année dernière, ils n'étaient pas en Europe. On a fait un podcast, d'ailleurs, sur le retour de Nkunku cet après-midi avec Jérôme Sillon et Daniel David, d'ailleurs. Et il y a beaucoup de questions autour de Leipzig. Il y a beaucoup de questions parce que en Allemagne, on n'a pas du tout aimé le changement d'entraîneur, le départ de Leverner, alors qu'il avait qualifié Leipzig en Ligue des Champions, et l'arrivée de Martin De Michelis avec intervention de Jürgen Klopp, qui depuis n'est plus dans la galaxie Red Bull. Et beaucoup de spécialistes en Allemagne estiment que Martin De Michelis n'est pas loin, dans les pronostics, d'être le premier coach à faire ses valises cette saison. Et plus compliqué, au-delà de ça, plus compliqué, c'est le schéma de jeu que fait Martin De Michelis, qu'il utilisait en Espagne en 4-3-3. Et pour trouver une place à Nkunku avec certains joueurs, soit blessés actuellement ou qui méritaient leur place déjà l'année dernière, va falloir se bouger. Donc c'est un peu compliqué en ce moment Leipzig. Le tirage au sort n'est pas bon. Victoire obligatoire de Leipzig, évidemment, contre Lens à domicile, pour répondre à ta question. Et puis Stuttgart, c'est un peu différent parce que le groupe est beaucoup plus facile. Il y a juste un problème à Stuttgart, c'est qu'ils ont perdu Nübel qui était retourné au Bayern parce qu'il était en prêt depuis plusieurs années, et le grand espoir du football allemand au poste de gardien, Zeimann, est blessé depuis un paquet de temps et il sera pas présent avant la fin septembre, début octobre. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est que Stuttgart-Lille, c'est des matchs presque à 6 points, aussi bien pour les Lillois que pour Stuttgart. On peut pas se planter, quoi.
Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir. Julien ?
Salut Gébert, salut à tous.
Salut Julien. Bon, t'as eu les oreilles qui ont sifflé parce que tout le monde avant que t'arrives a râlé en disant il y en a marre, les Anglais ils sont trop, donc du coup ils se jouent pas, donc du coup ils sont toujours avantagés.
Certains ont dit aussi que t'étais toujours en retard.
Mais je suis d'accord. Surtout quand t'es là.
Mais du coup, il y a pas mal de confrontations franco-anglaises qui arrivent. Alors, le PSG ira à City, ira à Villa. Lens ira à Liverpool. Et Lille ira à Arsenal. Donc tu vas recevoir tout le foot français, mon vieux.
Ouais, ça va être bien. Alors, il y a des matchs qui seront peut-être plus faciles que d'autres, parce que Liverpool est encore en transition, par exemple. Il y a l'arrivée de Bradley Barcola et on va voir comment ça va jouer avec Barcola, s'il jouera à gauche, s'il jouera à droite, ce que ça va faire pour Wirtz et pour Isaac notamment. Mais c'est encore une équipe qui se cherche. On l'a vu ce week-end à Newcastle, par exemple. Et Iraola aura peut-être besoin d'un petit peu de temps, lui qui va découvrir aussi la Ligue des Champions, d'ailleurs, en tant qu'entraîneur, pour mettre tout ça en place. Un petit peu pareil pour Maresca et Manchester City. Donc, il y a peut-être des moments où ce sera bien quand on aura le calendrier complet, sûrement, soit demain soir, soit samedi matin, de voir quand ces clubs-là vont s'affronter.
Oui, l'ordre des matchs a toujours une importance cruciale, bien sûr.
Voilà. Exactement. Après Arsenal, c'est quand même le gros morceau vu la qualité de cette équipe-là, les renforts cet été en termes de recrutement avec Bruno Guimaraes, avec Konsa et avec Tsolis. Donc c'est un petit peu différent cette dynamique-là. Et pour Aston Villa, c'est une équipe qui a perdu beaucoup de ses joueurs principaux. On va inclure aussi Emi Martinez qui est sur le point de rejoindre Chelsea. Là, donc quand
Chelsea,
tu perds ton gardien,
ils ont une collection de gardiens. Ils en veulent 50 de gardiens. C'est quoi le
Ils en ont beaucoup. T'as raison, mon Gilbert. Mais ils ont pas des mecs qui ont plus de 25 ans. Tu vois, c'était jusqu'à présent, ils avaient recruté que des jeunes. Et là, c'est vrai qu'ils font une exception vu comment Robert Sanchez est nul. Et je pense qu'ils pensent que ton ami Mike est pas encore tout à fait prêt pour reprendre le flambeau.
Bon, ouais. Pourtant, je pense que si, mais bref.
Non, moi aussi. Mais
non, c'est fou. Chelsea, on n'y comprendra jamais rien. Bon, voilà pour le tirage au sort. J'aimerais que certains d'entre vous restent pour parler mercato. Juste un mot, Polo, avant de te laisser. Goretzka, qui part en Angleterre, il est encore d'un bon niveau, Goretzka, ou il s'est définitivement mis à la muscu?
Au-delà de ça, il a été très très professionnel malgré son retour sur le banc l'année dernière. Il a toujours été là lorsqu'on a eu besoin de lui. Il a tiré l'équipe vers le haut, donc je pense que c'est une excellente opération et il aurait pu aller dans beaucoup beaucoup de clubs.
Oui, Max, tu veux dire un truc là-dessus?
Sur la muscu, non. Non, je voulais juste très rapidement parler du calendrier de Lens. Par contre, moi, je trouve qu'il est quand même...
On fait ça après la pub. Okay. Polo et Daniel, on vous laisse. Merci, les gars. Je garde Julien et Edgar parce que j'ai deux, trois actus mercato à évoquer avec vous. Merci, Polo. Merci, Daniel.
Merci, bonne soirée.
Ciao. Allez, mercato et Ligue 1 dans quelques instants pour les dernières minutes de l'after.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Avec Fabrice Hawkins, avec Tim Chano, avec Kevin Diaz, Julien Laurence, Edgar Grelot qui sont là. Oui, je voulais dire un mot de quelques infos mercato, les gars, et Fabrice est là, donc profitons-en. Donc, est-ce que tu as entendu toi aussi que Lamine Ndiaye pourrait partir à City pour 90 millions ? On redonne le chiffre qui est fou, mais Fabrice nous a dit on est loin du compte quand même, hein, parce que c'est loin d'être fait, mais je ne sais pas en Angleterre ce qu'on en dit.
Oui, oui, bien sûr, oui, on m'en a parlé aussi, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options. Par exemple, Jack Grealish pourrait aller dans le sens inverse, lui qui avait déjà été prêté à Everton la saison dernière, ce qui pourrait donc amener City à payer un petit peu moins pour Ndiaye, mais en incluant Grealish dans le deal. Le problème de Grealish, c'est un salaire incroyable à 350 000 euros par semaine, que même un club comme Everton, enfin qu'un club comme Everton par exemple, même en première ligue, même un club anglais comme ça, même un gros club anglais ne peut pas payer. Donc il y a encore des choses à régler, et je pense aussi que même avec l'arrivée de Grealish, ce serait une telle perte pour Everton de ne plus avoir Lamine Ndiaye qui a été encore excellent lors de la première journée du week-end dernier, que ça, si tard dans le mercato, ça ferait mal. Mais en tout cas, à City, on cherche effectivement des ailiers. Ils vont faire Alan, le Brésilien de Palmeiras, mais ils ont besoin encore d'un autre ailier, donc ça pourrait être effectivement être Lamine Ndiaye.
Après, le prix de Lamine Ndiaye, il peut aussi s'expliquer par le fait que il regarde tout simplement Everton.
Tout à fait.
C'est ce qui se fait ailleurs, et c'est ce qui se fait aussi à City, où ils ont quand même recruté 2 millions pour plus de 200 millions d'euros. 2 milieux pour plus de 200 millions d'euros. Donc un attaquant, un ailier qui a un très bon niveau en première ligue, qui a fait ses preuves, forcément ça va chercher très haut. Mais encore une fois, il est dans la shortlist, ça c'est une certitude, Lamine Ndiaye, mais c'est quand même long d'être fait.
City a vendu Savinho pour 100 millions d'euros à Tottenham. Ils sont pas à un moment le marché que tu as créé toi. Voilà, se régule lui-même, tu vois ce que je veux dire. C'est donc forcément, si Savinho vaut 85, Lamine Ndiaye, qui a été bien meilleur que Savinho la saison dernière, vaut même plus que ça.
Marmouche, lui, donc va à Tottenham.
Voilà, c'est ça, c'était encore dans les tuyaux aussi, l'arrivée de Savinho, enfin Savio si vous voulez, il a changé son nom, et Marmouche avec un de ses nouveaux deals là, qu'on a maintenant un petit peu plus l'habitude de voir, de ce prêt avec obligation d'achat la saison prochaine. Donc comme ça, ça te permet de mettre ce coup là sur dans tes comptes de l'année suivante et pas dans les comptes de l'année actuelle, de la saison actuelle. Donc ça a aidé un petit peu tout le monde, et Tottenham qui avait déjà dépensé plus de 400 millions d'euros sur les joueurs précédemment, et puis pour City qui a la garantie de cet argent qui va rentrer l'été prochain. Donc pour Marmouche, moi j'ai un petit peu du mal à comprendre côté City, ou alors c'est qu'ils ont un plan pour le remplacer, parce que s'il y a un problème pour Haaland, ils ont plus d'autres numéros 9 qui pourraient remplacer Haaland, alors c'était le rôle de Marmouche. Pour Marmouche, il voulait jouer plus, il va à Tottenham avec des Zerbi, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe pour l'instant, il devrait faire une bonne saison collectivement et individuellement.
Très bien, ben voilà les actus mercato.
Il y a Enzo Fernandez aussi qu'il va falloir
surveiller,
qui sera peut-être le feuilleton là de ces prochains jours, parce que Chelsea, on a bien compris que s'ils trouvent un remplaçant à Enzo Fernandez, ils allaient le laisser partir bien volontiers à Manchester City, où il va retrouver Enzo Maresca. Maintenant, il demande une grosse somme, on parle de plus de 140 millions d'euros. Donc voilà, faut voir simplement si...
Ton micro, Kevin.
Ils veulent recruter quelqu'un d'autre.
Ils ont pas de remplaçant avec leurs 47 joueurs.
En tout cas, ils aimeraient... Tu sais qu'ils aimeraient recruter idéalement Alex Scott de Bournemouth, mais... Pour l'instant, Bournemouth,
il y a eu une offre qui a été refusée.
De Strasbourg,
exactement.
Il y a deux semaines de ça.
J'ai dit Chelsea a déjà pris tous les meilleurs joueurs de Strasbourg et ils peuvent plus aller en piqué.
Là, au milieu, il reste plus grand monde.
Ne t'inquiète pas, Jean-Pierre.
Et Barco, il va jouer un peu ou pas?
Il a joué aujourd'hui en Coupe de la Ligue. Il a été très bon. Alors, contre Luton, une équipe de 3ème division, mais c'était ses débuts, il a été très bon.
Ça a fait combien?
Ils ont gagné 2-0.
Luton, mon ami, c'est l'équipe de Jack Wilshere, non?
C'est ça, tout à fait. Ouais, Jack, l'entraîneur. Ouais.
Mon ami André Santos, il joue toujours, lui, ou...
Il est parti à Manchester United, il a joué la première journée, il n'a pas été bon avec Tielemans, et l'arrivée de Baleba, ça ne sent pas très bon pour notre ami Dede Santos, que j'aime beaucoup, hein, je suis comme toi, mon Gilbert, mais à Chelsea, ils n'ont pas trop accroché. Et là, United, 55 millions d'euros, on va voir ce que ça va donner, mais il joue déjà gros, quoi, parce que si ça ne marche pas là non plus, après, il va se retrouver en Turquie ou quelque part.
L'argent coule à flot, quand même. En Angleterre, ils ont fait des remplaçants, 50-60 millions d'euros, c'est un remplaçant.
Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est le mercato, tu l'as vu, Fab, hein, c'est un mercato de folie.
C'est exceptionnel.
Autant dépenser,
on dit quoi en Angleterre de tout ça?
Alors c'est marrant parce que t'as des clubs comme Newcastle, comme Aston Villa, qui eux, avec le fair play financier qu'on a maintenant en première ligue, le fameux PSR là, sont obligés de vendre pour équilibrer les ventes. Donc tu perds Tonali, tu perds Guimarães, tu perds Gordon. Pareil pour Villa, tu dois laisser partir Rodgers et Tielemans et Martinez, Heading et Konsa, etc. Et d'un autre côté, parce que eux sont en Coupe d'Europe, ont joué la Coupe d'Europe, donc ça aussi ils jouent dessus. Et puis après, ils regardent les autres dépenser des milliards, notamment les gros, qui vendent bien aussi. Hein. Faut reconnaître que Chelsea et City, par exemple, City, ils ont vendu pour 400 millions d'euros, ils ont recruté pour 400 millions d'euros. Ça s'entend dans un sens. Mais t'as aussi des clubs qui dépensent beaucoup sans pas beaucoup vendre. Et si t'es Newcastle Villa, tu te dis mais comment c'est possible quoi. Donc il y a cette incompréhension parfois chez certains supporters en disant mais attends, pourquoi certains clubs ne peuvent pas dépenser et doivent vendre, d'autres peuvent dépenser, on continue à dépenser. Ipswich, donc est promu, a quand même dépensé 175 millions d'euros. Ah oui. Ipswich Town, 175 millions d'euros en recrue cet été. C'est incroyable.
Remets-moi le jingle pigeon pour Ipswich. Parce que Ipswich, entre Enciso et Gary O'Neill, alors là les gars, c'est un festival. C'est pigeon total.
Même le Everton de Toulouse, hein.
Ouais. Oiseau à la grise robe. Tu es vraiment le plus agile. C'est un couple.
Il est incroyable. Les agents
ils ont payé 5 millions pour O'Neill. Et franchement, c'est une blague.
Les agents anglais doivent quand même se régaler, hein.
Ah bah, t'imagines pas à quel point.
Bon. Finaise. Merci Julien. Ouais.
Merci les gars.
Ciao, ciao. Salut, bonne soirée. Un mot Edgar sur un point Alvarez. Parce que c'est un genre de feuilleton là permanent en Espagne. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir?
Oui, c'est le feuilleton, c'est le sujet d'actu. Il y a encore eu un communiqué de l'Atlético qui a encore une fois, si c'était pas assez clair pour vous, fermé la porte au Barça. Ils disent que toute leur direction a été unanime sur le fait qu'ils ne laisseraient pas partir Julian Alvarez cet été au FC Barcelone. Ils estiment que le Barça a pas eu le bon comportement par eux. Julian Alvarez, lui, il estime que l'Atlético, a pas tenu forcément toutes les promesses, ou en tout cas ce qu'ils avaient dit. Lui, il espérait qu'il le laisse partir cet été. Et Julian Alvarez, lui, il s'est coincé en disant « moi, je veux partir », sauf qu'en fait, finalement, il peut pas partir. Donc là, en fait, tu te retrouves dans une situation où soit... par miracle, Arsenal par exemple met 150 millions d'euros et il peut partir et il y a une solution.
Ils ont pas ces fonds-là, c'est ça la difficulté.
Bien sûr, mais tu vas te retrouver très probablement dans une situation où il va devoir baisser la tête, travailler et essayer de regagner comme il peut l'amour des supporters. Ça va prendre très longtemps, hein, parce que là la fracture elle est très très profonde.
On n'en est pas arrivé là, mais ça me fait penser un peu au feuilleton qu'il y avait eu aussi avec Antoine Griezmann où Barcelone le voulait. C'est, dans un premier temps, il avait refusé, puis il est allé. Ça me fait penser un peu à ce truc-là où l'Atlético disait aussi à l'époque, si tu veux, on peut te libérer, mais va partout sauf à Barcelone. Finalement, il y était allé un an après.
Merci Edgar.
À très vite.
Deux, trois petites infos pour conclure. Vous dire que demain, la commission des compétitions de la Ligue reçoit Rennes, vous savez, pour la fameuse décision concernant le match retour Rennes-PSG.
C'est intéressant.
Arnaud Pouille sera là et Nicolas Taverneau, président du conseil d'administration, sera là également. Donc, ils vont se défendre. Les Rennais veulent absolument jouer chez eux. Logique. Le match du mois de mars. Et puis, rapidos, je voulais quand même, parce que c'est toujours drôle, faire un petit point Infantino. Alors, Infantino, il a trouvé des soutiens. La fédé saoudienne, alors les saoudiens, évidemment, Infantino leur a filé la Coupe du Monde, donc ils se disent, bon, on ne va pas le lâcher, ils ont quand même rendu service. Donc la fédé saoudienne soutient Infantino. Samuel Eto'o soutient Infantino.
Plus étonnant.
Aux surprises. Javier Zanetti et Esteban Cambiaso, Javier Pastore soutiennent Gianni Infantino.
Il a le temps de faire ses soutiens-là, Pastore, en train de transférer Enzo Fernandez, parce que c'est quand même l'agent d'Enzo Fernandez.
Ah bon?
Ouais.
J'ignorais. Ouais. Il s'était lancé dans cette carrière.
C'est le flaco. Je ne sais pas s'il va le garder, mais.
Emmanuel Petit, lui, ne soutient pas Infantino. Il était dans Rotten sans flamme, il l'a expliqué. Alors, il y a une liste de joueurs français, Mickaël Sylvestre, Olivier Dacour, Frédéric Piquion. Frédéric Piquion ne soutient pas Infantino, je tenais à vous le dire. Ce soir.
Frédéric Piquion, qu'on embrasse.
Exactement. La fédé italienne non plus ne soutient plus Infantino, c'est officiel. Donc voilà, il compte. Chacun maintenant se positionne. Donc Kevin, tu soutiens ou pas toi?
Je ne soutiens pas Infantino.
Tu ne soutiens pas Fabrice?
Je ne réponds pas.
Ah, ça veut dire que tu soutiens.
Maxime?
Non, je ne soutiens absolument pas.
Non, mais je ne soutiens pas ses idées non plus, hein, pour être très clair.
On va s'arrêter là-dessus.
Et toi, tu soutiens Infantino?
Je ne soutiens pas.
Parce que vous avez le même coiffeur?
Exactement. Exactement, mais il n'y a pas de solidarité entre eux. Ça se saurait.
Non, mais t'as pas vu la vidéo où il y a un mec qui l'interpelle et Gianni Infantino lui répond hey, on se voit chez le coiffeur. Parce que le gars, il le houspie.
Il a un peu d'humour quand même.
Ouais, il a un peu d'humour.
Heureusement qu'il reste ça. Quoi.
Ouais. Demain soir, Lille PSG avec l'after dans la foulée, bien sûr. Salut les gars. Et
salut
bon
à tous. Salut les gars.
Yeah, I did. I spoke to Gianni.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.